Bonjour et bienvenue dans Espace de Travail, l'émission où nous parlons de travail et sur la façon dont on travaille. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un métier qu'on a tous l'impression de connaître, un métier qui trimballe avec lui pas mal d'idées reçues et de préjugés, mais qui en fait a bougé à toute vitesse depuis déjà presque 20 ans. Donc c'est le métier de facteur. Pour ce faire, nous recevons deux invités. Alors Nicolas Jounin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, vous êtes l'auteur de ce livre qui s'appelle « Le cachet de la poste, enquête sur l'organisation du travail des facteurs », voilà, qui vient de sortir. Vous avez été embauché comme facteur quelques semaines. À partir de cette expérience, vous déroulez la façon dont le travail s'organise, dont les cadences sont créées, élaborées, et aussi vous pointez beaucoup de difficultés dans ce monde du travail-là. Et on va en discuter aussi avec Brahimi Brahimi. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes facteur, postier, et vous êtes syndicaliste chez Sud PTT. Vous vous intéressez beaucoup à ces questions d'organisation du temps de travail, notamment à la Poste, et vous êtes aussi acteur de à peu près toutes les luttes qui ont eu lieu, je pense, dans le secteur depuis de nombreuses années.
À l'échelle de notre département, en tout cas.
Absolument. Vous êtes dans les Hauts-de-Seine.
C'est ça.
Dans le 92. Très bien. Bah, écoutez, on commence. Peut-être, on va peut-être un peu poser les choses de façon basique. Dans ce livre, Le cachet de la Poste, vous racontez les choses à la première personne et ensuite vous en servez pour dérouler une enquête sur la façon dont on organise le travail des facteurs. Vous pouvez nous raconter pourquoi la première personne, comment ça se passe, comment vous faites, pourquoi ce choix ?
Alors, j'ai d'abord rencontré beaucoup de facteurs et de syndicalistes de La Poste qui ont pu me dessiller un peu sur ce qui se jouait à La Poste, parce qu'effectivement, je pouvais en avoir une image un peu folklorique au départ, sur la fréquence et la brutalité de ces organisations, sur l'impossibilité d'en discuter avec les directions, de les amender, sur le caractère automatique, mécanique presque de ces réorganisations, de la manière dont les tournées sont découpées et dont la durée est évaluée par des logiciels. Et donc l'idée était de raconter ça d'abord par en bas, en essayant de voir qu'est-ce que ça fait sur le travail de manière un peu compréhensive. Donc en me faisant embaucher pour à la fois avoir des contacts avec d'autres facteurs dans un autre contexte et puis en même temps pour l'éprouver un petit peu moi-même. Et il se trouve que j'ai été embauché juste au moment d'une réorganisation. Donc je décris comme ça pendant quelques semaines l'impact de la réorganisation sur le collectif de travail, sur les sentiments des uns et des autres, sur ma propre incapacité à réussir à faire le travail dans le temps imparti. Et puis il y a une histoire un petit peu par en haut d'essayer de comprendre comment la Poste résonne, comment la Poste, à quel défi elle se confronte et à quoi elle essaye de répondre, pourquoi elle essaye comme ça de soutirer davantage de travail des facteurs à travers cette prescription automatisée des durées de travail.
C'est de ça dont on va parler. Dans le livre, vous reprenez des conversations que vous avez, vous citez au mot près des échanges. Vous avez procédé comment ? Vous avez enregistré ?
C'est ce qui est dans le bouquin. J'ai procédé à ce qu'on appelle en sociologie une observation participante. Donc je travaille, je prends des notes. La prise de notes était facilitée par le fait que c'est pas très habituel, mais ça paraissait pas étrange non plus. Je sortais devant tout le monde mon calepin, ce qui pouvait se comprendre en tant que novice qui essaye de repérer un peu les rues, de s'y retrouver, etc. Mais c'était aussi pour prendre des notes. Et effectivement, il y avait un enregistrement uniquement audio qui permettait de reprendre à nouveau des notes le soir ou ultérieurement à partir de ces enregistrements pour être au plus fidèle de ce qui était dit.
Ok. Moi qui suis assez néophyte dans la sociologie, je m'excuse, vous avez informé après coup les gens que vous aviez enregistrés, dans quelles circonstances vous aviez travaillé avec eux ?
Alors pas tous, une partie d'entre eux, notamment parce que j'ai pu faire ensuite avec des entretiens avec eux, j'ai pu leur remettre même des versions du livre pour faire vérifier des parties qui les concernaient, mais pas tous de fait, parce que le problème c'est que un centre de distribution du tout courrier, comme tout espace de travail, est traversé par des conflits, des rapports de pouvoir, et se dévoiler à toutes et tous, c'est se faire exclure. La Poste, c'est l'une des choses que je pointe à l'intérieur. Donc ça pose un problème éthique, le fait de pas, je le cache pas, le fait de pas forcément se dévoiler à tous. Mais c'est, je pense, le seul moyen de faire une enquête de ce type-là, parce que La Poste est extrêmement fermée pour ce qui est de dévoiler la manière dont on s'organise
tout
le travail.
Fait. Moi qui, de temps en temps, écris des articles sur La Poste, je peux effectivement confirmer que c'est pas facile. Et Brahimi, est-ce que vous, alors je crois que vous avez lu le livre, vous avez regardé, vous avez en tout cas discuté souvent avec Nicolas Jounin, est-ce que vous y retrouvez, est-ce que vous, dans la façon, dans ce qu'il décrit sur les réorganisations, sur la précarité, sur un peu le caractère brutal et automatique de la façon dont les réorganisations sont mises en place, ça vous parle ?
Ouais, complètement, ça nous parle, parce que c'est notre quotidien, c'est ce qu'on vit au jour le jour dans les services, et il arrive à mettre les mots dessus d'une manière où on n'arrive pas forcément à le faire nous, enfin en tout cas, on communique pas de la même manière. Mais en tout cas, son bouquin, il est nécessaire parce que il y a besoin que les débats qu'on a, nous, en interne, y compris avec la direction de la Poste sur la manière dont quand il fait la charge de travail, que ces débats, ils sortent et que le public, un peu, il comprenne ce qu'on vit au quotidien, la manière dont, quand il fait nos charges de travail, l'impact de la manière dont il travaille sur nos conditions de travail et sur notre métier aussi, parce qu'il y a nos conditions de travail, il y a la manière dont on quantifie, mais il y a aussi les conséquences sur, sur les usagers, les usagères, parce qu'il y a une dégradation de la qualité de service qui est hyper importante, et il faut que les gens comprennent pourquoi est-ce qu'il y a cette dégradation de la qualité de service. C'est pas juste des collègues qui ont une conscience professionnelle qui est inférieure à la moyenne, c'est aussi parce qu'on leur donne pas les moyens. Le bouquin de Nicolas, il permet justement de mettre des mots sur ça, quoi.
Peut-être la première chose qui saute au visage quand on lit le livre et quand on discute avec des postiers et avec des facteurs, c'est que la précarité est partout. Peut-être pour rappeler les choses, la Poste n'embauche plus de fonctionnaires depuis près de 20 ans, hein, depuis 2002, je crois. Et en revanche, il y a un turnover énorme. Il y a beaucoup de gens qui travaillent en CDD pour quelques mois, sur des postes tournants, sans tourner attitré de toute façon. Ça tourne beaucoup et apparemment c'est assez facile de se faire embaucher. Donc peut-être vous pouvez juste dire comment vous vous êtes fait embaucher.
Oui, alors effectivement, ça a été presque plus facile que ce que j'imaginais. J'avais une certaine idée du fait que la Poste avait effectivement un volant de précaires assez abondant qu'elle entretient en permanence. Alors, le fait qu'il n'y ait plus de fonctionnaires, ça ne veut pas forcément dire qu'il n'y a que des précaires, c'est-à-dire qu'on a recruté des CDI ensuite à partir de 2002, et donc maintenant la majorité des facteurs et des postiers sont des contractuels de droit privé en CDI. Et ensuite, on a un volant de un peu moins de 10% de CDD et d'intérimaires. Avec un fort turnover qui n'est pas forcément recherché par la Poste, qui est même qui la pénalise d'une certaine manière, mais qui est un peu le résultat en fait de la dureté des conditions de travail ou du contraste entre effectivement l'image qu'un certain nombre de gens peuvent avoir du métier de facteur et ce qu'ils découvrent une fois qu'ils s'y trouvent effectivement. Et quand moi je me fais recruter, le responsable de ressources humaines qui me recrute me prévient, on a 60% des gens partent au bout d'une semaine, et donc en fait son enjeu, c'est d'essayer de s'assurer que effectivement je vais rester. Et ce volant de précarité, il est entretenu, il a un lien organique avec les réorganisations dont on parle. C'est-à-dire que ces réorganisations qui arrivent dans l'idée de la Poste, c'est tous les deux ans, un centre de distribution du courrier doit être réorganisé, le nombre de tournées doit être réduit. Donc dans l'intervalle, à chaque fois qu'un facteur part en retraite ou mute ailleurs, etc., il n'est pas remplacé par un nouveau postier en CDI, mais par quelqu'un en CDD ou en intérim, dans la perspective qu'au moment de la réorganisation, on va supprimer des tournées, on va réduire les emplois, et donc on va se débarrasser des précaires CDD et intérimaires, ce qui permet de dire à la Poste qu'effectivement elle s'est débarrassée de 30 000 facteurs, puisque l'effectif était de 100 000 il y a 15-20 ans et on est de 70 000 aujourd'hui, sans avoir fait de plan social.
Ouais, alors on va évidemment très largement revenir sur ces réorganisations, simplement sur la dureté des conditions de travail dont vous parlez. Pour vous, Brahimi, qu'est-ce que ça veut dire quand on arrive, qu'on est embauché, qu'on ne connaît rien à la Poste? Qu'est-ce qu'on découvre en fait quand on va faire des tournées, distribuer du courrier, des recommandés, des petits colis?
Déjà, on découvre que le métier, il est un peu plus complexe que ce qu'on pensait. Parce que c'est pas juste... Le premier truc qu'on découvre, c'est que la tournée, elle est pas préparée. C'est le facteur qui prépare sa tournée avant de la distribuer. Donc, il y a déjà une grosse partie de l'activité qui se fait à l'intérieur, et c'est la préparation de la tournée. Et puis, on découvre surtout qu'en fait, on n'a pas les moyens d'être formé. Enfin, la Poste ne donne pas les moyens d'être formé correctement. Je suis rentré à la Poste il y a 13 ans. Bon, la situation était déjà pas géniale, mais elle était quand même largement meilleure que ce qu'elle est aujourd'hui. Aujourd'hui, la plupart des collègues qui sont embauchés en intérim ou en CDD, ils sont pas formés correctement avec des jours de doublure suffisants avec le titulaire ou avec quelqu'un qui connaît la tournée parfaitement pour pouvoir être dans la capacité, lorsque le collègue il est tout seul, de faire la tournée et de réussir à la finir dans les temps. Donc ça, c'est la première chose qu'on découvre. Après, l'autre élément, c'est évidemment les temps impartis. Il y a très peu de possibilités d'avoir des temps morts, des temps de pause. On vient largement à l'avance avant la prise de service pour être sûr de pas être en retard et de réussir à finir dans les temps. Et même en faisant ça et en ne prenant pas sa pause, des fois, on dépasse quand même son temps de travail. Et les heures supplémentaires sont pas payées. Voilà, donc c'est un peu tout ça qu'on découvre quand on rentre à la Poste. Et puis, au fur et à mesure du temps, on s'habitue. Sauf que le temps qu'on s'habitue, il y a la réorganisation qui arrive et qui nous remet dans une situation où en fait on réaugmente à nouveau notre charge de travail, et en fait on est dans ce phénomène-là perpétuel
Ok, alors bah, bon, parlons de ces réorganisations, puisque donc, ce que vous racontez dans le livre, ce que vous dénoncez régulièrement, notamment enfin, avec Sud, PTT notamment, c'est, donc, c'est ça, tous les deux ans, là, pour un bureau de poste, on dit bon, alors on va remettre à plat toutes les tournées où on va distribuer le courrier dans toutes les maisons, tous les immeubles, etc. Parce qu'on a de moins en moins de courriers à la poste, c'est vrai, de courriers ordinaires. J'ai quelque part les chiffres que bien sûr je ne retrouve plus, mais le nombre de ce qu'on qualifie d'objets distribués, donc les colis et les lettres, a été divisé par 2 en 12 ans. Quoi. On est passé de 18 milliards par an à 9 milliards par an. Donc il y a effectivement une baisse du volume de lettres ordinaires. On reviendra après sur le fait que tout ne baisse pas. Mais donc ça c'est la justification pour la Poste, qui du coup gagne de moins en moins d'argent, puisqu'il y a moins en moins de timbres utilisés, d'objets envoyés. C'est la justification pour dire qu'il faut réduire le nombre de facteurs. Il y a moins de courriers à distribuer, donc il faut moins de facteurs. On est d'accord.
C'est ça.
Et donc tous les deux ans, on réfléchit à comment on fait pour que les bâtiments soient desservis par de moins en moins de facteurs. Okay. Donc ça, c'est un problème, si je comprends bien. C'est ce qui apparaît dans votre livre, évidemment. C'est que chaque fois qu'on remet tout à plat, c'est un bazar monstre pendant des mois, et c'est une charge de travail monumentale en plus pour tous les facteurs. Quoi.
Bah, la Poste est confrontée à une contradiction économique par rapport à son modèle historique, qui est qu'effectivement, le nombre d'envois diminue. Alors, ce n'est pas forcément vrai des lettres recommandées, c'est carrément pas vrai des colis, encore moins aux périodes depuis 2020, enfin avec la pandémie. Mais il y a une baisse des volumes, disons, qui permettent d'éditer des recettes. Mais il y a un autre volume qui n'est jamais évoqué par la Poste, c'est le volume de destinataires, qui lui ne cesse d'augmenter. Le nombre de boîtes aux lettres desservies par les facteurs, d'après la Poste elle-même, il était d'environ 33 millions il y a 15-20 ans, il est de plus de 40 millions aujourd'hui. Donc, si on faisait une analogie avec nos box Internet, nos boîtes Internet, on paye pour recevoir un flux. Donc, plus il y a de boîtes Internet, plus ça fait du revenu pour ceux qui nous vendent ces boîtes Internet. Plus il y a de boîtes aux lettres, ça n'a pas d'impact sur les recettes de la Poste. Donc, c'est vraiment la manière dont c'est construit historiquement le paiement dans ce marché-là qui fait que la Poste est confrontée à une contradiction économique, alors que les facteurs doivent desservir de plus en plus de destinataires. Il y a plus de routes à parcourir, il y a plus de quartiers, d'immeubles, de maisons qui se construisent. En même temps, les recettes sont moins importantes. Et donc, il y a une chute mécanique de la productivité, puisqu'il faut toujours parcourir toutes les rues, même si on a moins de courriers à distribuer. Et la manière dont la Poste tente de se sortir de cette contradiction, c'est en soutirant davantage de travail aux facteurs. Et elle y a plutôt bien réussi, puisqu'elle continue à être excédentaire, y compris sa branche courrier au fil des années.
Et alors, Ibrahimi, ce point, cette contradiction qui, effectivement, quand on l'explique simplement, on la comprend bien, est-ce que vous arrivez à faire entendre ça à la direction, ou, enfin, est-ce qu'ils en sont conscients mais qu'ils n'ont pas le choix, ou est-ce qu'on vous dit, bon, arrêtez de nous embêter avec ces questions, de toute façon, vous avez moins de travail, allez au boulot, quoi.
Il n'y a pas trop de débat, en fait.
Ouais,
on discute pas beaucoup avec la direction de la Poste de ces éléments-là. Ils ont un schéma directeur. Le schéma directeur, c'est tous les 18 mois... Entre 18 et 24 mois, il faut qu'il y ait une réorganisation qui augmente le niveau de productivité, qui baisse le nombre d'emplois. Vous n'avez pas le choix. Le phénomène qu'on subit au fur et à mesure des réorganisations, c'est que soit les collègues acceptent, baissent la tête et laissent passer les réorganisations, et c'est les conditions de travail qui en prennent un coup. Et ensuite, on se retrouve ensuite dans une situation où les collègues partent d'eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils finissent par craquer, ils démissionnent, ils changent de métier, ils passent sur d'autres branches du groupe La Poste, et ils sont remplacés par ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire des collègues précaires, qui eux arrivent dans une situation où de toute façon ils ne connaissent que ce type de conditions de travail-là, et la précarité évidemment joue un rôle dans le fait qu'ils acceptent ces conditions de travail, et La Poste s'en sort. De cette manière-là. Après, nous, ce qu'on a à dire sur la baisse de courrier, bon, il y a à la fois la Poste qui ne parle que de la baisse du courrier ordinaire, c'est-à-dire, c'est vrai qu'il y a moins de cartes postales, il y a moins de lettres, de ce qu'on appelle les lettres ordinaires, mais en même temps, il y a une augmentation des lettres recommandées, il y a une augmentation du nombre de paquets, de petits volumineux. Ça met beaucoup plus de temps pour distribuer un paquet ou un volumineux qu'une lettre ordinaire. Donc, en termes de temps, c'est pas mécanique de dire il y a une baisse du trafic en termes de courrier ordinaire, et donc il y a une baisse proportionnelle du temps de travail. C'est pas mécanique, mais la Poste, en fait, elle s'en moque complètement. Ce qu'elle veut, c'est tous les deux ans augmenter le niveau de productivité, et que les collègues suivent ou qu'ils ne le suivent pas, ça ne les intéresse pas beaucoup. Et sur cette question du dilemme auquel est confrontée la Poste, à savoir une baisse de ses recettes au niveau courrier et en même temps un nombre de boîtes aux lettres qui augmente et une nécessité par le biais de ses missions de service public de continuer à distribuer ce courrier-là, bah, en fait, nous, ce qu'on a à dire là-dessus, et c'est pas tabou que de dire ça, c'est que on a une mission de service public. Et donc, de ce point de vue-là, il faut aussi accepter que à un moment donné, l'activité de distribution du courrier, de la presse quotidienne, ne soit pas forcément bénéficiaire. Voilà, on n'a pas de tabou avec ça. On ne demande pas à l'hôpital public, malheureusement, si, ça commence un peu à être le cas, mais on ne devrait pas demander à l'hôpital public ou à l'enseignement d'être bénéficiaire et de générer des profits. Mmh. Bah, de la même manière, nous, on pense que, en ce qui concerne la distribution du courrier, de la presse quotidienne, qui sont des missions de service public, on n'a pas à être bénéficiaire. Et le groupe La Poste, il faut qu'il arrête un peu d'essayer de faire pleurer dans les chaumières. Il génère énormément de chiffre d'affaires et de bénéfices tous les ans. Hein. Il suffit de regarder les chiffres, entre 600 millions et 1 milliard de bénéfices ces 10 dernières années par an, par le biais de ses autres filiales, par le biais de Colipost, par le biais des sociétés qu'elle rachète. Elle est dans une situation où elle achète des sociétés presque tous les jours dans le monde entier. Donc, peut-être qu'en fait, il faut aussi que La Poste elle accepte que la baisse de revenus par rapport à la baisse de trafic du courrier ordinaire soit compensée par d'autres activités du groupe. C'est aussi ça, la défense du service public.
Il y a quelque chose qui ressort très fort dans le livre et aussi dans votre discours, qui est être postier, travailler à La Poste et en permanence être confronté à des ambiguïtés, des règles non dites ou des interdits qu'on peut contourner si on ne le dit pas trop ou si on sait comment les contourner. Vous avez parlé du temps de travail. Beaucoup de facteurs finissent leur tournée après l'heure où ils sont censés rentrer. Et ces heures sup ne sont pas vraiment payées ou parfois de temps en temps, on ne sait pas vraiment comment. Un autre exemple que vous donnez qui m'a vraiment beaucoup frappé, c'est que dans un centre postal, les facteurs ont décidé de suivre le code de la route. En fait, c'est impossible. C'est-à-dire que s'ils suivent le code de la route, simplement les prescriptions, on ne roule pas à vélo sur les trottoirs, on s'arrête au feu rouge, etc. Rien que ça, ils explosent le temps qu'il leur est imparti pour faire leur tournée. Donc ça, j'ai trouvé que c'était quand même assez frappant et évidemment, ça doit être une source de tension et de mal-être au travail assez forte. Quoi. On navigue tout le temps entre des ambiguïtés.
Oui, tout à fait. Les facteurs jusque-là, donc la plupart d'entre eux sont titulaires dans leur tournée, donc ils font tout le temps la même tournée tous les jours, ce qui permet d'aller plus vite, de fabriquer des repères. Une bonne partie des compétences des facteurs, elles sont liées au quartier dans lequel ils distribuent, parce qu'ils connaissent mieux les usagers, ils savent les habitudes de tel ou tel. Et donc c'est pour ça aussi que les réorganisations périodiques sont des chocs, parce qu'on peut être changé de tournée ou à moitié changé de tournée, de quartier, d'usagers, etc. Donc ce sont tout un tas de repères qui changent, et ça explique aussi le surcroît de charges de travail, au-delà du fait qu'on rajoute des rues, tout simplement s'habituer à des nouvelles rues ou des nouveaux villages ou quoi, c'est un peu long. Et donc effectivement, on construit une manière de travailler qui se glisse un peu dans les interstices des fois de la prescription. Mais ça, c'est vrai un peu dans tous les métiers, hein, que d'une part, le réel ne correspond pas forcément au prescrit, et d'autre part, que c'est aussi à travers des micro-transgressions qu'on arrive à faire en sorte d'accomplir la production et de l'accomplir en plus d'une manière qui est satisfaisante pour tout le monde. Et là, effectivement, c'est aussi ces choses-là qui sont bousculées, ces aménagements, ces arrangements qui sont bousculés. Et du coup, par réaction, certains facteurs vont dire « Bon, bah, à ce moment-là, il est impossible de discuter de votre prescription de la charge de travail. Vous nous mettez face à des injonctions contradictoires entre « Il faut faire la tournée dans tel temps, mais en même temps, il faudrait respecter le code de la route, ne pas rouler sur les trottoirs quand on est à vélo ou voir quand on est en scooter à trois roues, le stabi. » on va appliquer effectivement toutes les règles et on va voir si on y arrive. Et là, effectivement, ce que ça montre, c'est qu'on n'y arrive pas.
Ouais. Donc c'est ce que vous disiez au début, Brahim, c'est une difficulté pour les gens à faire bien leur travail, et en plus on leur renvoie le fait qu'ils font mal leur travail. Donc typiquement, c'est les recommandés, il y a des facteurs qui sonnent plus du tout chez les gens, et ils mettent directement dans les boîtes aux lettres l'avis de passage, donc on dit qu'ils sont avisés. Vous racontez que vous faisiez pareil quand vous découvrez une tournée, que vous galérez comme un fou, il y a une bonne partie de courrier que vous distribuez pas. Enfin, ça sert d'être quand même quelque chose qui est très classique, quoi. Donc on met les facteurs dans une position très difficile, en fait. Mm-hmm. Et je comprends.
Un nouveau, quand il arrive sur une tournée et qu'il n'a pas le temps de formation nécessaire, les chefs d'équipe eux-mêmes leur disent d'aviser les recommandés. C'est même pas quelque chose qu'ils font d'une manière qui n'est pas officielle. C'est la consigne qui est donnée. De toute façon, on sait très bien qu'il y a un collègue qui ne connaît pas la tournée, et parfois même qu'il la connaît, mais son nombre de recommandés est trop important, il ne peut pas les faire. Donc, y compris la poste dont elle a besoin, c'est que le courrier recommandé soit traité. À partir du moment où il est avisé, pour eux, il est traité. Donc, okay. Qu'il soit distribué à l'usager ou qu'il y ait un avis de passage dans la boîte aux lettres, à partir du moment où il sort du circuit de distribution, pour eux, c'est ça qui les intéresse. Après, sur le mal-être que génèrent ces réorganisations pour les collègues, au-delà de l'augmentation de la charge de travail, c'est qu'on a quand même une part très importante de collègues qui aiment leur métier, qu'ils défendent, ils ne sont pas postiers pour le salaire. Ça se saurait sinon. Oui. Ils sont postiers parce qu'ils aiment bien le métier, parce qu'il y a la mission de service public, évidemment, mais il y a le fait de bien connaître ses usagers, de rendre service, etc. Et les réorganisations, en fait, elles ne laissent plus la possibilité de faire son métier tel qu'on le faisait il y a 10 ans, il y a 20 ans. Parce que la charge de travail est tellement en augmentation que ces temps-là qui représentaient du lien social et qui donnait du sens au métier, ben en fait, ces temps-là, ils disparaissent. Je me souviens, en 2009 ou en 2010, ils appelaient ça du temps parasite, la direction de la Poste. Le temps qu'on passait à répondre à un usager sur le prix du timbre ou sur telle ou telle chose, quel est le bureau de poste le plus proche, tout ça, ils appellent ça du temps parasite. Y a des postières et des postiers sur leur vélo, c'est impossible qu'ils ne répondent pas à quelqu'un lorsqu'il leur pose une question, en particulier quand elle est en lien avec leur métier. Et ça, en fait, il n'y a plus le temps de le faire. Et donc, on a des collègues qui craquent. Et malheureusement, la Poste, on a connu ça, et on continue malheureusement à connaître ça, des tentatives de suicide, des suicides avec des collègues qui aiment leur métier, aiment la manière dont ils le font, et n'acceptent pas la transformation qui fait qu'ils deviennent simplement des distributeurs de courrier sans visage, sans âme, et qui n'acceptent pas cette disparition du lien social.
Ok. Vous avez parlé du salaire. Je peux juste vous demander combien on est payé à la Poste, parce que vous dites que c'est pas pour ça qu'on rentre. Quand on est, je sais pas, qu'on est un tout petit peu confirmé.
On est payé au SMIC.
Ok.
En fait, on est payé au SMIC.
On travaille en plus par ailleurs que les horaires de travail.
De manière générale, oui. Puisque les collègues dépassent leur temps de travail et les passements horaires ne sont pas payés. Mais parfois, vous savez, au mois de juin, quand ils augmentent le prix du SMIC là, au gouvernement, quand ils disent « tiens, on va peut-être augmenter un peu leur pouvoir d'achat de 1%, et ben en fait, la Poste est obligée, en catastrophe, de rattraper le salaire des postiers parce qu'on repasse en dessous. Vous vous rendez compte ?
Donc on est vraiment à la limite.
Okay. Voilà, après 10 ans de boîte, on touche 1 300 €. Quoi.
Ok, bon, au moins c'est clair. Et on en vient peut-être à ce qui sous-tend un peu toutes ces questions autour de la réorganisation, c'est la mesure du temps de travail ou du temps accordé pour tous les gestes du métier, quoi. Donc ce qu'ils appellent les normes et cadences. Donc vous le racontez très bien. Pour chaque geste du métier, normalement il y a une norme, c'est normé jusqu'au, je sais plus, millième, enfin même plus précisément que le millième de seconde.
Au centième de centiminute.
Voilà, au centième de centiminute, puisqu'on est en centiminute et pas en seconde ou en millième de seconde. Et ce que vous racontez, c'est que en fait, la Poste, pendant des années, s'est basée sur ces modèles-là, mais en fait, sans pouvoir retrouver comment elle les avait calculés.
Oui, effectivement, à partir de la début, deuxième moitié des années 2000, la Poste abandonne ce qu'on appelait la vérification des tournées. On avait des vérificateurs, donc qui étaient des chronométreurs un peu tayloriens classiques, qui étaient derrière les facteurs pour regarder combien de temps nécessitait leur tournée. La difficulté, c'est que comme chaque tournée était différente, parce qu'il y en a une qui est dans la montagne, l'autre qui est dans une zone périurbaine, l'autre dans un immeuble, etc., il fallait accompagner chaque tournée pour faire une réorganisation. Mais de fait, il y avait peu de réorganisation. Je cite un cadre de la Poste que j'ai interviewé qui disait la productivité se faisait toute seule parce que le courrier il augmentait. Donc les facteurs avaient de plus en plus de lettres et c'était dans un certain nombre de cas plus à leur demande qu'on redécoupait des tournées parce que leurs tournées devenaient trop chargées qu'à l'initiative de la Poste. À partir du moment où le courrier commence à baisser, c'est la Poste qui prend l'initiative et qui cherche à accélérer le rythme des réorganisations. Et c'est plus compatible de son point de vue avec l'accompagnement systématique de toutes les tournées, ça prend trop de temps. Et puisqu'il y a cet objectif de faire une réorganisation tous les 18 à 24 mois. Et donc effectivement, elle va construire un modèle de calcul ou d'évaluation des durées théoriques des tournées qui se nourrit d'une description géographique des tournées, d'une estimation du trafic, et tout ça est mouliné avec des normes et cadences, donc des vitesses et des temps conventionnels, standards, qui sont les mêmes partout, pour toute la France, mais vraiment partout. Hein. Ça va de la Guadeloupe aux Hauts-de-Seine, en passant dans les montagnes, dans les Alpes, ou dans le Nord, ou quelle que soit la météo, le relief, etc., partout. Partout la même chose. Et donc, effectivement, avec une précision au centième de centiminute. Les facteurs sont souvent savent qu'il y a des cadences, par exemple pour le tri, Brahim donc évoquait le fait qu'il faut d'abord trier sa tournée, comme on a un examen de tri dans son parcours professionnel, on sait qu'il y a des cadences prescrites. On sait moins, par exemple, que la Poste dit qu'il faut effectivement 3,33 centiminutes, je sais plus exactement le chiffre, pour remettre une lettre dans une batterie, dans une boîte aux lettres quand elle est insérée dans une batterie de 9 à 12. Voilà, ça c'est très précis, et c'est comme ça, en mettant bout à bout ces petits chiffres, que la Poste vous dit, bah, votre tournée actuelle, elle fait 4h12 de travail. Vous avez une durée théorique de travail de 7h dans la journée. Donc vous devez, c'est le grand mot à l'intérieur de la Poste, c'est le langage de la dette, vous devez 2h et des poussières. Et donc on va vous rajouter des morceaux de rue jusqu'à arriver aux 7h. Et donc effectivement, c'est une belle mécanique qui est souvent présentée par les directions locales comme scientifique, et donc une espèce de prescription unilatérale indiscutable. Vous pouvez éventuellement discuter sur le fait que ce serait plus malin de mettre telle rue à côté de telle rue, mais sur le fait que distribuer telle rue, ça prend 3 minutes et 41 secondes, ça vous pouvez absolument pas le discuter. Et donc il y a une prétention scientifique derrière ce modèle, alors qu'effectivement, quand on gratte un peu, ce modèle qui a été utilisé pendant 15 ans à peu près, jusqu'en 2020, il repose sur des normes et cadences qui ont été elles-mêmes établies dans les années 90 et dont la Poste dit avoir perdu les documents qui les justifient, donc les chronométrages qui ont été faits, les formules mathématiques qui ont été utilisées pour convertir ça en cadence pour les facteurs.
Ouais, alors ça, évidemment, pour un lecteur lambda et pour un journaliste qui s'intéresse au temps de travail, aux conditions de travail, c'est quand même un gros scoop, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, on base toute une organisation scientifique, officiellement, enfin scientifique, très normée sur quelque chose qu'on ne peut plus retrouver, qu'on ne sait pas comment ça a été fait, on peut pas savoir s'il y a une erreur. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous saviez? Alors, soit, est-ce que ça se sait à la Poste? J'en sais rien. Est-ce que ça se sait dans les syndicats quand on essaye de porter des contestations sur ces durées? C'est une découverte ou pas?
Bon, au début, avant de rentrer dans le détail des organisations de travail et de leur étude, on savait de toute façon qu'il y avait un problème, puisque les temps qui ressortaient, ce que tu disais, quand le chef d'équipe il te reçoit, il te dit, bon bah voilà la gueule de ta tournée,
c'est
4 heures, t'es payé 7 heures, tu dois 3 heures, bon, on sait bien qu'il y a un problème, parce que on ne fait pas sa tournée selon les temps qui sont indiqués par la Poste.
Presque toujours ou toujours, le temps réel pris par un facteur même expérimenté, c'est bien plus que ce qui est annoncé par la Poste.
Ah oui, presque toujours. 90%, 95% des cas. Donc déjà, il y a cette étape-là où on se dit qu'il y a un problème, mais il n'y a pas de possibilité de discuter avec la direction de la Poste ou avec l'interlocuteur sur ces temps de travail. Et d'ailleurs, le processus, il est devenu de plus en plus difficile entre le début des années 2000 et 2020, puisque y compris les éléments qui sont donnés aux facteurs pour justifier de ces temps-là sont devenus de plus en plus opaques et de moins en moins précis. Okay. Donc là, en gros, l'entretien dont tu parlais, on donne une feuille au collègue, on lui dit travaux intérieurs 1h30, travaux extérieurs 1h30, temps de parcours 50 minutes et voilà ton temps de travail. Et donc il n'y a même pas le détail par exemple par portion de voie, parce qu'on a des repères, les facteurs, les factrices, on sait telle rue, telle portion de voie, combien de temps on met, et en fait le document ne permet même plus d'avoir cette précision-là qui permet d'argumenter. Donc en fait ça coupe court au débat, donc il y a toute cette phase-là où en fait on n'avait pas les éléments scientifiques pour démontrer la supercherie, et puis au fur et à mesure des années, on a fini par la découvrir, à la fois parce que en 2011, on est passé en mode CHSCT privé.
Donc,
on n'avait pas la possibilité avant 2011 de voter par exemple des expertises.
Donc, comité santé, sécurité, je ne sais jamais le dire, c'est honteux, mais bref, les représentants du personnel qui s'occupent de la sécurité et des conditions de travail,
c'est ça, c'est tout à fait
avec
ça.
La direction, donc qui ont le pouvoir de commander des expertises payées jusqu'à il y a peu de temps par la direction. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué. Ils ont disparu grâce aux ordonnances qui réforment le droit du travail. Mais néanmoins, vous pouviez obtenir des expertises faites par des gens compétents sur ces questions. Et c'est là que ça a posé problème.
C'est ça. C'est surtout là que leurs problèmes ont commencé à la Poste, puisque là, on avait la possibilité, y compris juridiquement, de demander à la Poste de justifier comment ils quantifient leur charge de travail, de nous donner à la fois les modalités d'élaboration des normes et cadences, de nous donner les données brutes, ce qui nous donne toujours des moyennes, mais voilà, ils nous donnent pas les données brutes qui permettent de vérifier si ces moyennes correspondent bien à la réalité ou pas. Et donc, au fur et à mesure des années, en fait, avec le travail qu'on a mené avec les cabinets d'expertise, on a réussi petit à petit à démontrer que la Poste, en fait, elle est totalement incapable de démontrer comment elle quantifie sa charge de travail. Et on en est arrivé en 2014 à la situation où la Poste nous dit « Bon, bah, en fait, on en a marre de vos questions, on en a marre de vos demandes. On ne peut pas vous donner les documents que vous demandez parce qu'on les a perdus dans un déménagement. » Voilà, en 1994, Il y a d'énormes cadences qui ont été mises en place, sans rentrer dans le détail. Mais en gros, quelques années plus tard, il y a eu un déménagement de la direction des services courriers qui est à Champs-sur-Marne et qui ont déménagé à Paris-Brune. Et dans le déménagement, le truc classique, hein, en fait, ils ont perdu les éléments et donc ils sont incapables de démontrer comment les 70 000 facteurs et factrices en France
ont travaillé pendant 15 ans.
Travaillent et surtout comment justifier leur réorganisation et leur suppression d'emplois. Et le travail qui a été mené justement conjointement entre les cabinets d'expertise et les CHSCT qui ont adopté ces démarches-là a permis d'obtenir un certain nombre de victoires juridiques dans pas mal de coins en France, en fait. Et la Poste, du coup, s'est retrouvée en difficulté parce que quand on arrive devant un juge et qu'on dit, bah, en fait, désolé, mais on a perdu les données qui permettent d'expliquer comment vous travaillez, bah, c'est difficile de justifier les réorganisations. Et donc, ça a permis, dans un certain nombre de coins, de limiter de manière assez importante le rythme des réorganisations et d'empêcher même qu'elles se mettent en place.
Je pense que ça montre aussi, de manière un peu collatérale, quelque chose d'intéressant sur la question des fonctionnaires et des contractuels de droit privé, parce que je pense qu'on a souvent tendance à penser que les fonctionnaires ont tous les droits, tous les privilèges, pendant que c'est plus dur d'être dans le privé, ce qui n'est pas forcément faux sous certains aspects. Et c'était probablement comme ça que raisonnaient les dirigeants qui se sont dit on va privatiser le statut du personnel à minima, sans que ce soit forcément une privatisation d'entreprise en tant que telle. En tout cas, on arrête de recruter des fonctionnaires. Les fonctionnaires, ils avaient quand même certains avantages d'un point de vue de direction. C'est qu'ils ont, du fait qu'ils servent une mission de service public, que leur direction est garante d'un intérêt général, ils ont moins de droits en termes de représentation du personnel que les salariés du privé, moins de droits notamment à demander des comptes à leur employeur. Et donc ce passage au comité d'hygiène, sécurité et conditions de travail en 2011, du fait que la Poste venait de devenir une société anonyme, ça a effectivement donné la possibilité, alors il y avait déjà des syndicats importants qui avaient une politique, mais ça donnait un nouvel outil qui était le CHSCT et des nouveaux droits, notamment de droit à être informé. Ça a un rôle purement consultatif, le CHSCT, ça n'empêche pas la direction de continuer à avancer envers et contre tout. Néanmoins, il y a cette idée, vous devez nous informer. Et c'est parce que la Poste était incapable d'informer correctement les CHSCT que ça a permis de bloquer certaines réorganisations. Et l'autre élément aussi qui est important sur le passage de fonctionnaire à salarié, c'était un peu un sous-entendu de ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est surtout cette question historique du fini parti. Le fini parti chez les facteurs, ça signifiait que quand vous finissiez avant l'heure de théorique de fin de service, en fait, vous pouviez rentrer chez vous. Vous n'étiez pas obligé d'attendre la fin. Mais en revanche, quand vous rentriez après l'heure, vous deviez rester. Voilà, c'était pas payé plus et vous deviez écouler tout le courrier parce que vous avez un objectif de service public, d'écoulement de tout le courrier du jour. Alors ça, quand on regarde les rapports de la Cour des comptes, de manière obsessionnelle et presque maladive, pour eux, le fini parti, ça veut dire les facteurs, ils bossent moins de 35 heures, ils partent toujours avant l'heure. Sauf que ça a été en fait un moyen pour la Poste, au fur et à mesure de sa réorganisation et des surcharges de travail qu'elles impliquent, de permettre que les heures supplémentaires ne soient pas payées. Depuis tout à l'heure, Brahim dit les heures supplémentaires ne sont pas payées. C'est un peu curieux quand même. Enfin, je veux dire, si c'est aussi massif, ça devient même du travail dissimulé d'un point de vue juridique. C'était parce qu'on était sur cette ligne du fini parti. Sachant que toute cette modélisation des charges, de la durée supposée des tournées que la Poste met en œuvre a supposé qu'elle ait quelques fondements. On vient de dire que ce n'est pas le cas, mais a supposé qu'elle en ait. Ça reste une estimation moyenne de la durée des tournées. Quand on dit la tournée, elle fait 7 heures, en fait, la Poste elle-même admet qu'il y a des jours où c'est moins, il y a des jours où c'est plus. Et le fini parti permettait ça, d'absorber les jours où c'est moins, mais on part plutôt les jours où c'est plus. Et puis en moyenne, on serait à 35 heures, ça ce serait la théorie. Sauf que là, on a fabriqué des salariés. Des salariés, il faut leur payer des heures supplémentaires. L'inspection du travail, elle a mis le temps, mais elle commence à être sur le dos de la Poste, à venir dans les centres de distribution du courrier, à demander ce qui est du pointage des horaires pour effectivement payer les heures supplémentaires. Alors les directions locales sont extrêmement réticentes, du coup ça occasionne éventuellement des amendes administratives de plusieurs dizaines de milliers d'euros, mais ça commence à rentrer dans les mœurs et il y a un certain nombre d'endroits où en fait la Poste dit bon bah le fini parti, c'est fini. Et les facteurs sont obligés de rester, et s'ils rentrent avant l'heure, ils sont obligés de rester jusqu'à l'heure. Et s'il rentre après l'heure, du coup, il rentre encore après l'heure. Ouais. Et là, les heures supplémentaires sont plus ou moins payées, ça dépend un peu des endroits. Mais ça veut dire que toute cette construction autour d'une moyenne ne correspond plus à rien, puisque quand on est en dessous, il faut quand même rester jusqu'à l'heure, et quand on est au-dessus, on est quand même au-dessus. Donc ça conduit à une augmentation du temps de travail effectif des facteurs.
Alors, on va revenir quand même sur cette question des normes et cadences, parce que ça a changé depuis tout récemment, il y a des nouvelles règles qui ont été mises en place, mais avant, je rebondis juste sur ce que vous évoquez sur l'inspection du travail, la justice, etc., parce qu'en fait, fait, il y a un autre modèle à la Poste. Là, vous parlez du modèle livraison de courrier. Mais il y a aussi le modèle livraison de colis, enfin, le modèle qui est un autre univers de travail. Et là, on l'a pas mal raconté à Mediapart, c'est l'endroit où se développe le plus la sous-traitance. C'est-à-dire qu'il y a des endroits en région parisienne où 80% des colis, parfois 100% des colis, quand il y a vraiment des fortes charges, sont distribués par des gens qui ne sont pas employés par la Poste, qui sont employés par des petites entreprises qui ont des grosses entreprises, mais souvent des petites, qui ont des contrats avec la Poste. Et donc, c'est ces petites entreprises-là qui emploient les salariés. Alors là, on est dans le royaume de l'arbitraire, de la non-déclaration réelle des heures de travail, etc., etc. La Poste commence à être condamnée. En octobre dernier, la Cour d'appel a confirmé une première condamnation pour usage abusif de sous-traitance dans un centre en Ile-de-France. Il y a d'autres enquêtes en cours, etc. Mais du coup, la question qui se pose en lisant votre livre, c'est, moi je trouve que c'est un peu ça, c'est si le modèle devient du facteur classique devient trop contesté, est-ce que la Poste ne va pas dire, bon bah ok, on se débrouille, maintenant débrouillez-vous, je passe tout à des petites entreprises privées et puis je n'emploierai plus personne. Est-ce que c'est un risque ? Est-ce que c'est une crainte ?
Bon, en fait, c'est déjà ce qui est en train d'amorcer
la Poste. Est-ce que ça arrive ?
Voilà. Là, il y a une négociation en cours sur un nouvel accord avec la direction nationale sur les conditions de travail et la distribution du courrier. Et le colis est le laboratoire pour l'ensemble des autres métiers du groupe. C'est évidemment au colis qu'on a eu la dégradation des conditions de travail la plus importante et la plus rapide, avec un taux de sous-traitance qui est franchement assez incroyable. On a entre 80 et 90% de sous-traitance. Les postiers et les postiers qui bossent à Colipost, en fait, ce sont des encadrants. Parce qu'au niveau des encadrants, ils sont obligés quand même d'avoir des postiers et des postiers. Mais pour tous les distributeurs de colis, ce sont des sous-traitants et souvent des intérimaires embauchés par des sous-traitants. Donc, c'est de la précarité, on va dire, profonde. Le phénomène est en train d'arriver chez nous, au courrier, puisqu'il y a ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que la dégradation des conditions de travail fait que, de toute façon, il y a une partie des salariés qui quittent l'entreprise et qui ne sont pas remplacés, qui sont remplacés par des salariés précaires. Donc, d'une certaine manière, ces salariés précaires, la Poste a la possibilité de leur imposer les conditions de travail qu'elle a envie. Voilà. Et donc, il y a déjà une première dérive. Et puis, la seconde, c'est celle qui est en train de se matérialiser là. C'est-à-dire qu'ils considèrent que la quantification de la charge de travail doit être faite différemment de la manière dont elle était faite jusqu'à maintenant. Et on s'oriente, y compris dans les prémices des discussions qu'on a en ce moment au niveau national, vers des organisations de travail qui ne quantifient plus la charge de travail par tournée. C'est-à-dire ce qui était fait jusqu'à maintenant et on dénonçait la manière dont c'était fait. Donc ça, ils n'en veulent même plus. Et donc, ça va augmenter les capacités de contester, de répondre sur la quantification de la charge. Et donc, ils vont faire des quantifications de la charge par équipe, donc par équipe ou par établissement. Et donc, ils vont considérer que ce sont aux équipes ou aux établissements, entre elles, déterminer combien, en fonction du nombre de suppressions de tournées, comment vous vous organisez pour faire en sorte de construire une organisation de travail avec moins de tournées et avec les moyens qu'on vous donne. Et donc, c'est encore pire que ce qui se passe aujourd'hui chez nous dans les services courriers. Et c'est une dérive, évidemment, qui vient du colis, puisque au colis, il n'y a pas de tournée attitrée comme chez nous, avec un découpage, un nombre de rues déterminé au colis. C'est en fonction du volume de colis qui arrive le matin que ça...
C'est réparti entre les gens.
Voilà, que ça donne le découpage de la tournée faite. Le jour même. Donc c'est le matin quand le collègue il arrive, en fonction du nombre de colis, il sait combien de rues il a à faire. Et donc on s'oriente vers un fonctionnement comme ça au niveau du courrier. Il y a une petite difficulté, mais les connaissants vont sûrement y trouver une parade. C'est cette notion de mission de service public, parce qu'on distribue les recommandés, ça a une valeur juridique, on distribue la presse quotidienne. Il faut pas trop rigoler avec la presse quotidienne, parce que l'usager, il sait quand le facteur y passe avec la presse quotidienne, contrairement aux lettres où la Poste fait un peu ce qu'elle veut, mais le journal, s'il arrive pas, c'est que le postier n'est pas passé. Donc, il y a ces petits éléments qui la bloquent encore un peu, et puis elle reçoit des subventions de l'État quand même pour assurer cette distribution-là. Donc, elle peut pas non plus faire totalement ce qu'elle a envie, contrairement à ce qu'elle fait au colis, mais cette dérive, elle arrive.
C'est un discours de la direction de la Poste, hein, au demeurant, de dire on a un modèle social extrêmement favorable par rapport à des homologues étrangères et la perspective, ça pourrait être de tous vous transformer en indépendants, voir que vous alliez trier le courrier chez vous, comme effectivement ça peut se voir aux Pays-Bas ou ailleurs. Alors, moi, je dirais pas qu'il y a un modèle classique du facteur, parce qu'en fait, il est tellement écorné depuis 15-20 ans que, de toute façon, je ne crois pas que ce soit la contestation de ce qui est en train de se faire qui pourrait accélérer l'externalisation, puisque c'est probablement effectivement des plans qui sont prévus. Mais on a, c'est intéressant quand même de comparer, de voir le contraste entre ce qu'il y a au colis et ce qu'il y a au courrier. C'est que effectivement au colis, donc on a choisi la sous-traitance, l'intérim, avec quand même des soucis clairement au niveau de la qualité de service, des vols. Enfin, moins on s'engage vis-à-vis des salariés, moins ils sont aussi engagés vis-à-vis de vous. Alors ils sont tenus par la discipline de la faim, la contrainte. C'est des gens qui sont particulièrement précaires, mais ça pose des problèmes de coordination aussi, parce qu'en fait ils sont complètement intégrés à l'activité de la Poste, industrielle et économique, et en même temps, on les externalise justement, et pour pas que juridiquement ce soit trop litigieux, alors que ça l'est, on va demander par exemple aux postiers encadrants de quasiment pas parler aux sous-traitants pour pas que ça apparaisse comme un lien de subordination, parce que du coup ce serait illégal, mais du coup ça empêche concrètement la coordination, enfin soit on respecte pas le droit, soit ça pose des problèmes de coordination. Et du côté du courrier, le modèle était plutôt d'avoir des titulaires de tournée, donc des gens qui sont tenus et qui consentent des efforts aussi parce que ils se sont appropriés leur tournée, ils ont un lien particulier avec leurs usagers, ils ont souci de bien les servir, donc c'est à travers ça aussi qu'on c'est dans une autre logique qu'on les tient. C'est un peu moins effectivement la pure discipline de la faim, c'est aussi à travers cette appropriation,
conscience professionnelle aussi.
Voilà. Et cette conscience professionnelle, et ça je pense que c'est quand même une contradiction à laquelle la Poste devrait se confronter si elle va dans ce modèle-là. Elle va se déliter avec, au fur et à mesure qu'on a des précaires et des sous-traitants. Il y a tout un chapitre où je décris justement notre position de CDD ou d'intérimaire, où à un moment, de toute façon, c'est tellement le bazar, on nous envoie éteindre des incendies à droite à gauche parce qu'il y a des tournées qui sont sinistrées avec des bacs de courrier qui s'empilent. Et en fait, bon, on voit très bien que de toute façon, dès que les choses vont être un peu réglées, on va être remercié, licencié. Et on voit très bien aussi qu'à la fin de la journée, plus personne n'est capable de voir si on a bien bossé ou pas sur notre tournée, parce que de toute façon, il y aura toujours un gros tas de courriers à la fin. Et donc, ça développe des comportements opportunistes, de triche. De fur et à mesure, on va laisser des tas de courriers sur la batterie ou à l'intérieur d'un dépôt relais, donc un coffre dans la ville où on devrait récupérer le courrier. En fait, on l'y laisse et il sera jamais distribué. Donc, il y a quand même cet arbitrage-là sur la qualité de service au moment où la Poste essaye quand même de développer ce qu'elle appelle ses nouveaux services. Absolument. Tout un tas de services différents, de prestations, mais qui reposent sur l'idée de confiance quand même que les usagers ont vis-à-vis des facteurs. Ouais. Donc si on dégrade trop cette confiance par ailleurs à travers une qualité de service qui se dégrade, il y a contradiction.
Et donc le modèle de la Poste est encore plus menacé. Bon, écoutez, on doit s'arrêter là. Je suis navré, j'avais encore 25 questions. Mais je vous remercie beaucoup, Brahim Ibrahimi et Nicolas Jounin, d'être venus pour discuter de ce que c'est le travail à la Poste. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel espace de travail. Merci à tous.